France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Vous avez sans doute déjà fait l'expérience, hein, comme nous tous, en papotant avec vos voisins dans un hôtel pour un week-end prolongé. Vous vous rendez compte que vous avez payé 50 euros moins cher. Bah, vous êtes content, mais ne comparez pas le billet de votre train, parce que si ça se trouve, vous l'avez payé 20 euros plus cher. Ça s'appelle les prix dynamiques, ou ce qui fait le prix, ça n'est pas la valeur de ce que vous achetez, c'est l'ajustement à la demande. Mais du coup, combien ça coûte à la fin une chambre d'hôtel au Crotoy ou à la Tranche-sur-Mer ? Aucune idée. C'est pareil, par exemple, pour, je sais pas, un canapé, par exemple, à quoi ça sert de le payer plein pot pour le voir subitement en promo dans le mois qui suit? Est-ce que vous achetez encore plein pot sans avoir le sentiment que vous allez vous faire arnaquer puisque le prix forcément va baisser? Il fut un temps, on attendait les soldes, on savait que les prix tombaient, c'était la fin de la saison. Aujourd'hui, promotion, bon d'achat, Black Friday, du Cyber Monday, réduction exceptionnelle, sans compter les prix hyper cassés des plateformes de type Shine ou Temu. À la fin, nous n'avons plus aucune notion du prix des choses et surtout nous doutons constamment de la justesse des prix qu'on nous affiche. Le juste prix, à la fin, c'est quoi? Est-ce qu'il est éthique, ce prix-là? Est-ce qu'il est ce qu'on appelle utilitariste, c'est-à-dire le bon rapport qualité-prix? Est-ce que le prix, c'est aussi ce qui est acceptable pour le consommateur? Les prix fluctuent tout le temps, sans parler de l'inflation, bien sûr. Le chiffre, il est tombé aujourd'hui, 0,7% pour l'indice des prix à la consommation, ce qui ajoute, bien sûr, une incertitude. Et ce qui a un peu chamboulé les choses, on en parlera à partir de 2022. On en est presque, au fond, au stade où, en fonction du moment où vous achetez, en fonction du lieu où vous achetez, si vous êtes consommateur régulier, les prix deviennent presque individualisés. Tout nous éloigne de la valeur des choses. Est-ce que c'est ça qui fait de nous des consommateurs quotidiens? Le brouillage des prix, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Dominique, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir Dominique.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir, on vous écoute.
Donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout les prix en ce qui concerne l'habillement, et enfin les vêtements, les chaussures, parce qu'à l'heure actuelle, je dirais 95% de ce qui nous est proposé provient de pays à bas coût, et donc avec des coûts d'achat qui sont vraiment bas, et on retrouve sur le marché des choses qui sont à des prix très moyens, pour des articles qui sont pas très qualitatifs. Et le problème, c'est que la France s'est désindustrialisée et on n'a plus de moyenne gamme. C'est-à-dire qu'on a soit du bas de gamme, soit du luxe. Mais c'est un problème. C'est-à-dire qu'on ne paye pas le vrai prix. Il y a des gens qui prennent des marges.
Ah bah, on vous a perdu, Dominique, ou pas?
Non.
Ah voilà, pardon, je ne savais pas si vous aviez fini ou pas.
Ce que je disais, c'est qu'il y avait des gens qui prenaient des marges, les importateurs, les grossistes, les grandes surfaces, pour des produits qui, somme toute, sont de faible qualité.
Merci Dominique pour cette entrée en matière, merci pour votre question, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Guénaëlle Gault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale de l'Observatoire Société et Consommation, l'OPSOCO. Il y a, Franck Luédé, excusez-moi. Vous êtes le directeur d'études et de recherche spécialiste marketing stratégique tendance et consommation au Crédoc. Ce que nous dit Dominique, les uns et les autres, on va peut-être commencer avec vous, Guénaëlle Gault, c'est effectivement qu'il a du mal à comprendre le prix entre le moment où disons, le produit part, il a été fabriqué, il part, et au moment où il arrive. Je voudrais ajouter un chapitre, si je puis dire, à son interrogation. C'est surtout que dans la même gamme, en fait, on trouve des prix qui sont aujourd'hui extrêmement divers pour un produit finalement similaire. Est-ce que c'est l'impression que nous en avons ou est-ce que c'est une réalité, Guénaëlle Gault, fabriqué au même endroit, mais arrivé chez nous, trouvable à des prix qui sont extrêmement divers?
Oui, bah, je pense que Dominique exprime là le gros brouillage que connaissent tous les consommateurs aujourd'hui. C'est-à-dire, et justement, vous disiez tout à l'heure plein pot. Ouais. Bah, en fait, qu'est-ce que c'est plein pot?
Mais est-ce qu'on achète encore plein pot d'ailleurs?
On ne sait plus. Enfin, les consommateurs en fait ne savent plus précisément s'ils achètent plein pot et ils s'interrogent sur le prix des choses. Et ils s'interrogent sur ce juste prix. C'est un petit peu ce qu'il exprimait en fait. Mm-hmm. Quel est le juste prix des choses? Et c'est d'ailleurs intéressant parce que quand on a posé à l'Obsoco la question de, selon vous, comment se définit le prix juste auquel vous trouveriez normal de payer quelque chose. Alors, on parle beaucoup des prix les plus bas, hein, mais il y a 10% des Français qui nous disent que c'est le prix le plus bas. Mais sinon, en fait, c'est d'abord et avant tout le prix qui assure le meilleur rapport qualité-prix.
Sauf que comment on sait, à la fin, que c'est bien celui-là qui assure
qui
le meilleur rapport qualité-prix ?
C'est ça qui est compliqué, et c'est surtout une question de valeur perçue. Alors, ça va être des questions de la façon dont on va mettre en avant, justement, les bénéfices perçus. Comment est-ce qu'on va mettre ces dimensions qui sont plus lisibles, qui sont crédibles pour payer davantage que le prix le plus bas. Ça va différer en fonction des consommateurs parce que ça peut être des bénéfices santé, ça peut être des bénéfices éthiques, ça peut être des bénéfices plaisir, mais il faut pouvoir justement justifier de plus en plus ces prix pour le consommateur.
Franck Lehuédé, la valeur perçue dont parle Guénalgo, moi je trouve ça hyper intéressant parce qu'on y viendra aussi d'ailleurs sur ce qu'on achète et qui est très dématérialisé. Valeur perçue, ça veut dire au fond que ce qui joue aussi dans la fixation des prix, c'est l'acceptabilité au fond, c'est ce qui est acceptable pour tel type de produit. Est-ce que vous diriez que ça joue sur l'ensemble des produits, en fait, ce facteur d'acceptabilité ?
Totalement. Le consentement à payer va être totalement différent d'un consommateur à l'autre, en fonction, tout à l'heure vous l'avez dit, du moment où on va acheter le produit, du lieu où on va se trouver, du plaisir qu'on y accorde, et tout le marketing qui s'est développé à partir des années 60-70 dans la société de consommation a été là pour créer justement de la différenciation, des différences entre consommateurs en leur disant vous êtes différent des autres et c'est ça qu'il vous faut. Et à partir du moment où vous avez plein de produits très très différents qui répondent à des besoins différents, en apparence au moins, et bien à l'arrivée vous pouvez proposer des prix qui sont là aussi différents.
Du coup je vais vous poser la même question qu'à Guénalgo à l'instant, est-ce que désormais, est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un juste prix ou alors est-ce qu'on vit dans une époque aujourd'hui, une époque de consommation, que ça nous ravisse ou que ça nous désespère, où on ne peut plus, on ne sait plus, on n'imagine plus en fait fixer un juste prix, un prix qui correspond à une vraie valeur. Je ne sais même pas en fait si je sais moi-même définir ce que c'est que la vraie valeur et la question que je vous pose.
Ce qu'est le juste prix. Est-ce que c'est une rétribution du travail réalisé par les personnes qui ont fabriqué le bien ?
Ça, donc, c'est un argument, la rétribution.
On est sur un coût de fabrication du bien et puis donc on est dans une valeur plus utilitaire. Est-ce que c'est une dimension justement qui va se rajouter en disant on va mettre un service supplémentaire, une qualité supplémentaire, et donc du coup vous avez le bien qui répond à un besoin, mais de manière supérieure, ou est-ce qu'en plus on va y ajouter une dimension de différenciation dont on parlait, de valeur qu'on va défendre, l'environnement, pourquoi pas, ça peut en être une, de plaisir qu'on va avoir dans la consommation, et dans ce cas-là on est encore sur une dimension supplémentaire. En fait, la question du rapport qualité-prix, elle se construit sur la question du prix, mais aussi beaucoup sur la notion de la qualité. Et la qualité, elle est de plus en plus changeante et évoluante dans la société.
Mais du coup, est-ce que ce qu'on réussit à nous faire croire, au fond, ceux qui nous le vendent, c'est que la qualité a forcément un prix qui est un prix supérieur, Guénalgo. On va citer un exemple. Par exemple, je ne sais pas, un téléphone. Aujourd'hui, on sait qu'un téléphone, on en trouve rarement à moins de 100 euros, on va le dire comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'aux yeux du consommateur, celui qui est à 35 euros est donc une arnaque et on n'y va pas. Celui qui est beaucoup plus cher est une escroquerie, donc on n'y va pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à le fixer dans cette espèce de moyenne-là, en fait. Est-ce que c'est aussi comme ça, finalement, que se joue la fixation des prix ?
C'est un peu compliqué,
et
en
notre
fait.
Notre perception de ce qui peut être l'arnaque, en fait, on se dit non, 35 euros, forcément, ça va marcher deux jours et ce sera fini.
Oui, alors c'est vrai que y a, pour certains consommateurs, le prix le plus bas peut même susciter de la méfiance. Le prix le plus élevé peut au contraire susciter de paraître un peu outrancieux. En fait, ce qui est compliqué, c'est aujourd'hui, c'est que la crise, il y a une crise du signal prix en fait, et qu'il y a une crise de la valeur. C'est-à-dire que justement en jouant sur ce que vous expliquiez au début, c'est-à-dire la tarification dynamique,
par exemple, on va y venir. Ouais.
Eh bien, au départ, le consommateur, il y a quelques années de ça, a plutôt joué avec ça. C'est-à-dire c'était quelque chose qui expertisait le consommateur, qui lui donnait l'impression qu'il allait faire des bonnes affaires, d'être malin, d'aller dégoter en fait.
Parce qu'il savait qu'il y gagnait, donc voilà. Je m'y prends plus tôt, etc.
Sauf qu'à force de multiplier en fait les promotions, les prix barrés, les Black Friday, les offres exceptionnelles, etc. Aujourd'hui, on est dans une forme de perte de repère. une paire de pairs qui attaque en fait ce qui fait la valeur. Alors ça rend les choses plus compliquées pour le consommateur parce que comme l'expliquait Dominique en fait, comment est-ce qu'on se repère, comment est-ce qu'on va chercher la bonne information, ça nous demande du temps, ça nous demande on a peur de se faire avoir et du coup ça crée aussi un climat de défiance. Donc ouais, non, auparavant effectivement on avait plutôt l'impression que plus c'était cher, sans aller jusqu'à des prix très élevés, meilleure était la qualité. Ouais. Aujourd'hui c'est même plus ce qu'on peut dire.
Voilà, ça on ne dit pas ça. Plus c'est cher, si je dis je vais prendre celui-là parce qu'au moins ça durera longtemps, je suis même pas sûre de ça.
Bah, il faut que la preuve de la durabilité soit faite. Donc il faut que ça soit assorti, par exemple, d'une garantie qui vous dise 9 ans de garantie, que ça soit qu'il y ait des informations qui objectivent en fait ça.
Alors comment on fait justement pour s'y repérer ? Marc a peut-être une idée pour nous. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir, le téléphone sonne et vous invitez. Juste avant de dire comment je fais, je voulais vous signaler un petit problème technique. On a du mal à trouver le bon prix, mais on a du mal aussi à vous capter. Je vous suis fidèle à la FM en région parisienne. Et de plus en plus, votre station est camouflée, cachée par un autre émetteur voisin d'une façon que je n'aimerais pas, mais qui vous submerge.
Ah bon,
du mal à vous capter, je ne sais pas comment faire.
Ben persister.
La puissance de votre émetteur.
Alors, je sais pas, le vôtre précisément à côté de chez vous, Marc, je ne sais pas comment on fait, mais on pourra toujours essayer.
J'ai
essayer.
J'ai du mal à me caler sur la fréquence. Alors, ce que je voulais dire, moi, pour les prix.
Ouais, allez-y vers les prix.
Disons que je fais. Pourtant, en région parisienne, on n'est pas malheureux, on a plusieurs. Dans tous les domaines, on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour trouver, pour comparer, mais ça prend quand même du temps. Et donc, je fais confiance et je sais que je lis, je suis abonné depuis peu à 60 millions de consommateurs et ça m'a permis pour les produits du quotidien de voir que y a certains produits auxquels je ne pensais pas qui sont bien notés. Voilà comment je fais. Et puis là, en vous écoutant, j'ai pensé aussi qu'il y avait quelque chose qui se raréfiait. Il y a des magasins, il y en a un qui est, je ne nommerai pas, mais qui est au Forum des Halles, et qui vend pas mal de produits de high-tech, et qui faisait des guides comparatifs des produits qu'ils vendaient. Et puis il y avait d'autres magasins aussi qui faisaient ce genre de choses, et ce genre de dépliants qui notaient les produits avec leurs caractéristiques, et puis avaient des diagrammes. Eh bien, qui permettait de comparer, d'acheter en conséquence, eh bien, on en trouve moins maintenant. Voilà.
Merci beaucoup pour votre intervention, Marc. Franck Lehuédé, est-ce que ça aide vraiment, quand on a le temps, d'aller chercher ou est-ce que, au fond, y compris ces dépliants-là et ces associations de consommateurs, dont vous êtes plus ou moins les uns les autres, d'ailleurs, sont aussi tout aussi perdus, au fond, dans ce que nous proposent les magasins, non, ou pas ?
Alors, en fait, ça dépend de ce qu'on met derrière la valeur du produit. Si la valeur, c'est la durée de vie, la qualité de réception de l'appareil radio, par exemple, ce type d'information va pouvoir être utile. Mais si vous êtes un consommateur qui est intéressé par l'innovation, ça ne va pas du tout être les mêmes informations que vous allez rechercher. Là où...
En fonction de son intérêt, pardon, je vous interromps, mais il sera en capacité de mettre plus d'argent, de considérer que plus d'argent le maintient toujours dans ce qu'il cherche.
Et donc, du coup, d'être prêt à mettre plus pour la qualité, la dimension de qualité qui l'intéresse. Ce qui nous rejoint tous, en fait, en tant que consommateurs, c'est chercher des signes qui vont nous permettre d'assurer cette qualité, en fait.
Est-ce qu'on nous les donne, ces signes-là ? Ou est-ce que, justement, il faudrait qu'il y en ait d'autres, qu'on nous dise plus de choses, en fait, pour qu'on soit un peu plus sûr de ces signes-là, l'un comme l'autre ? Allez-y,
le marketing ne fait que ça.
Ouais.
Il est là pour nous donner une qualité, des signes de qualité intrinsèque à travers des labels, qu'ils soient officiels ou qu'ils soient officieux, liés à une marque particulière ou à une enseigne. Il est là pour nous donner des dimensions sur la durée de vie du produit. Il va être là aussi pour nous donner beaucoup, beaucoup d'informations, et sans doute beaucoup trop d'ailleurs, sur en quoi le produit qu'on vous propose là, il est différenciant des autres. Il est différent des autres.
Écoutez ce que nous dit Pascal sur WhatsApp. Il dit, et ça rejoint ce que vous disiez, Gena Elgo, et ce que je disais également en introduction sur le fait qu'au fond, on finit avec des choses qui sont très individualisées, en fait, en fonction du type de promotion, de où nous sommes et aussi de qui nous sommes. Pascal nous dit, pour moi, le juste prix, c'est celui qui est acceptable pour mon budget. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dit que cette remarque ?
Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est celui... Et souvent, on parle de prix les plus bas, mais c'est vrai que ce que vont chercher les consommateurs, c'est à optimiser leurs dépenses, pas forcément à les minimiser. Donc, on revient à cette question de la valeur perçue, c'est-à-dire Pascal, lui, ce qu'il va chercher, c'est par rapport à son budget, mais ce sont que des arbitrages. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie de la population, les plus modestes, les consommateurs les plus précaires, qui vont, pour qui le critère dominant, ça va être le prix, rien que le prix, parce que c'est la condition de l'accès même à la consommation. Mais tous les autres consommateurs, ça va être des arbitrages en fonction de ses préférences, en fonction justement de là où on met la valeur.
Est-ce que vous diriez que beaucoup de choses se sont renversées, disons depuis 2022 en fait, au moment de la crise de l'inflation, on s'est mis à voir effectivement grimper les prix, à voir des chiffres qui étaient réellement plus hauts, et au fond les critères qui pouvaient être des critères avant cela, peut-être plus aller vers le critère éthique, aller vers d'autres choses, est-ce que tout cela a été aplani par une hausse des prix due à l'inflation, et donc a ramené tout le monde comme un seul homme vers, attendez, le prix le plus bas, c'est lequel ? Il y a un avant-après 2022 ou pas ?
Là où ça a changé, c'est mais ça a marché aussi pour la période qui a précédé, qui était le Covid. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une rupture dans les habitudes. Et donc, on ne s'interroge pas tous les jours sur quelle lessive on va acheter, quel type de pot de sauce tomate, ou notamment dans l'alimentation. Mais là, en fait, ce qui s'est passé avec, en l'espace de 2 ans, 20% d'augmentation en moyenne sur les prix d'alimentation, c'est qu'on s'est interrogé sur ce qu'on achetait, là où on l'achetait, on a réinterrogé des arbitrages qu'on ne fait plus jamais et qui sont souvent des dépenses réflexes, en fait. Donc là, oui, ça a changé les circuits de distribution, la façon... Ça a inscrit une rupture. Donc, on s'est réinterrogé sur toutes ces choses-là et donc sur les prix et les mécanismes de prix. C'est ça, en fait, quand ça réinterroge les habitudes. C'est aussi ce qu'essaie de créer le marketing, à un moment donné. C'est de réinterroger, de casser les routines de consommation pour vous faire changer de marque, vous faire changer de distributeur.
Est-ce que, Franck Léhuédé, on le disait, hein, les Black Friday, les Cyber Monday, les promotions, les réductions, les choses et les machins, est-ce qu'on est devenu accro à ça, en fait et désormais, au fond, quand on est une enseigne, quelle que soit l'enseigne, il faut de toute façon qu'on mette promotion sur la vitrine, parce que sinon, les gens auront le sentiment qu'ils ne payent pas les choses à leur juste valeur.
Il y a un intérêt des consommateurs très clair pour les promotions, pour le Black Friday. On avait sorti une étude sur le Black Friday où on voyait que les gens disaient « Oui, je sais très bien qu'on va chercher à me faire consommer plus. »
Exactement, c'était ma question suivante. Ouais.
J'ai envie de le faire, ouais. J'ai vraiment envie de le faire et j'assume totalement de le faire. Alors, je le fais plus facilement quand j'ai un pouvoir d'achat plus élevé. Je le fais aussi quand je suis un consommateur qui doit justement optimiser en permanence parce que je me dis « bah je prépare mes achats de Noël au moment du Black Friday. Je vais bénéficier de réductions qui vont être intéressantes sur un produit que de toute façon j'allais changer. Et puis derrière, je me fais aussi plaisir, je garde une petite partie pour me faire plaisir.
On va avoir quelqu'un dans un instant qui va se servir, notamment sur les plateformes qui sont ultra pas chères, les plateformes chinoises, etc., Genalgo. Mais en fait, on voit la chose extrêmement moins chère, donc on en achète plus. Donc au fond, en termes financiers, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Est-ce que tout ça a aussi déboussolé notre manière de consommer, au-delà même du prix ? Parce qu'on se rend bien compte subitement qu'un t-shirt à 1,25€, ça n'a pas de sens, mais du coup on en achète 5, enfin disons les choses clairement, ou est-ce que ça a totalement déboussolé notre manière de voir les prix et de consommer aussi ?
Oui, je pense qu'on n'est plus dans une société de consommation, on est dans une société d'hyper-consommation et où tout est fait aussi pour susciter notre désir d'achat, même quand le pouvoir, lui, d'achat ne suit pas forcément, et on voit bien certaines de ces plateformes pratiquent même un marketing extrêmement ludique, où on a l'impression qu'on achète, mais en même temps on a l'impression qu'on joue et en fait on sait plus très bien à la fin qu'est-ce qu'on a vraiment acheté, combien de... parce qu'on a gagné des bons en même temps qu'on était en train d'acheter, enfin tout ça est très compliqué et en effet, en tout cas on est poussé et c'est sur ces plateformes-là avec un savoir-faire extrêmement extrêmement pointu pour nous pousser à l'achat.
Mais est-ce qu'on a perdu, vous parliez d'éthique tout à l'heure, est-ce qu'on s'est assis là-dessus en allant sur ces plateformes-là ou pas?
Non. non, encore une fois, ce qui est compliqué, on est très, il y a une forme d'ambiguïté, on n'a pas
parce qu'on y va. Hein, j'entends nos auditeurs là, on va avoir Joachim, je sais que vous patientez, qui a été servir sur une plateforme comme ça et dont acte. Mais j'entends aussi nos auditeurs qui doivent dire mais jamais, etc. De fait, ça marche extrêmement bien.
On est dans cette société là et on contribue, on participe tous et on a l'impression aussi, même si parfois on sait que c'est un système qui peut qu'on peut juger un peu pervers. Malgré tout, en tant que consommateur, on va essayer d'en tirer parti aussi individuellement au maximum. C'est une tension, c'est-à-dire Franck le disait, c'est-à-dire pour le Black Friday, ça permet de faire des bonnes affaires, c'est l'occasion de se faire plaisir, de préparer Noël, et en même temps, les gens nous disent que ça pousse à la surconsommation. Et on est dans les deux, et ce sont les mêmes personnes.
Bonsoir Joachim.
Bonsoir.
Parlez-nous de vos oreillettes, Joachim.
Vous m'entendez ? Alors,
ouais. Je vous entends.
J'étais petit, je potassais le catalogue La Redoute. Il y avait tous les prix et c'était une référence. Aujourd'hui, en effet, ces oreillettes Bluetooth, je les ai payées 1,80€ sur un site chinois et elles me sont arrivées et c'est avec ça que j'écoute vos émissions. Quand adulte, je travaille pour une entreprise qui aide les compagnies aériennes, les chaînes hôtelières à ajuster leurs prix. Et en fait, mon message, c'est le consommateur a le choix. En fait, c'est le choix de passer du temps et de l'énergie à trouver le prix. Et chacun y met l'énergie qu'il veut. Mmh. Voilà, c'est mon intervention.
Eh ben, merci beaucoup pour votre intervention, Joachim. On leur souhaite longue vie à vos oreillettes à 1,80€. J'ai un petit doute, mais peut-être que c'est moi qui me trompe. En fait, il faut aider chacun à ajuster son prix. Franck Léuédé, c'est même le travail de notre ami Joachim, c'est d'aider à ajuster les prix.
Les entreprises,
bien sûr, évidemment. On l'a compris comme ça. On a bien compris.
Ben, l'informatique a complètement changé la donne. On est dans un système qui aujourd'hui permet en direct de modifier les prix en fonction de la demande qu'il y a en face. On comprend que les entreprises, elles aient envie de gérer au mieux ceci pour avoir un chiffre d'affaires qui soit
bien sûr.
Plus...
Mais du coup, il manque le fondement objectif du prix, en fait.
Mais du coup, on perd ce fondement objectif, en effet, puisqu'on va le retrouver au global sur l'activité de l'entreprise. Ceci dit, l'activité de l'entreprise, elle est liée à ses coûts d'entrée, ce qu'elle achète pour pouvoir produire ses biens ou ses services, à ses coûts de fonctionnement à elle, mais aussi, la plupart du temps quand même, au fait qu'il y a des actionnaires, qu'il faut les rémunérer. Et donc ça aussi, c'est une dimension qu'il faut avoir en tête, c'est que le prix va chercher à, du côté de l'entreprise, gérer à la fois les coûts de fonctionnement, les coûts de matières premières, mais aussi le retour sur investissement des gens qui ont financé la bourse.
Guenalgo, pardon, je vous voyais
réagir. J'étais intéressée par la réflexion de Joachim sur le fait que le consommateur a le choix. Alors je pense que justement, mais il y a toujours eu l'information n'est pas pure et parfaite justement pour le consommateur, loin de là. Et là, c'est vrai que l'information est à disposition, mais en même temps, le consommateur est presque noyé sous l'information. Donc ça devient pour lui difficile de s'y repérer. Je pense néanmoins que les choses risquent de changer, peut-être un bras de fer à nouveau d'arriver sur les marchés de consommation avec l'usage de plus en plus important par les consommateurs de l'intelligence artificielle générative. Parce que là maintenant, en fait, plutôt que d'aller sur des moteurs de recherche, beaucoup de consommateurs et de plus en plus vont sur les ChatGPT, Perplexity, le chat, etc. pour demander quelle est la meilleure offre. Quel est le
ils ne demandent pas quel est le meilleur prix, mais quelle est la meilleure offre. C'est déjà intéressant, cela dit.
Quelle est la meilleure offre ? Quel est le meilleur... Enfin, parfois, quel est le meilleur prix, mais surtout, quelle est la meilleure offre qui correspond, en fait, à ce qu'ils veulent ? Quand est-ce que c'est le plus pertinent de l'acheter, aussi ? Alors, évidemment, ces outils sont aussi... vont progressivement... les entreprises et les marques vont s'en emparer pour faire se référencer, comme ils l'ont fait auparavant sur Google, etc. Mais c'est assez amusant de voir qu'il va y avoir sans doute un moment de réajustement, là, par rapport... et de monter en expertise des consommateurs qui vont disposer en fait d'une sorte d'assistant personnel de consommation et on va voir ce qui va se passer.
Ben écoutez, avec le prochain auditeur, je demanderai à l'intelligence artificielle pour voir si c'est le bon moment pour acheter, je sais pas moi, par exemple un canapé. Une remarque, Franck Léuédé.
Oui, il y a autre chose qui arrive fortement dans la consommation, ce sont les influenceurs, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et là, on voit aussi se constituer des sortes de communautés dans laquelle la valeur vient vient aussi du fait qu'on partage un certain nombre de produits et de services qu'on a vus auprès de cet influenceur, qu'il a utilisé. Et ça, c'est une dimension qui vient contrecarrer un peu ce que vous dites, Guénel, là, sur le pouvoir du consommateur qui redeviendrait plus fort. Bah, on trouve d'autres moyens en marketing pour réussir à l'inciter à aller acheter
c'est
des
c'est
des
une
produits.
Course perpétuelle.
Une course perpétuelle.
Ouais, et c'est même un travail, en fait, pour tout dire, enfin, pour chacun. Je voudrais qu'on écoute une note vocale, on va la découvrir ensemble.
Je suis maraîcher bio en Isère et j'ai le souvenir sur un marché d'une dame habillée de façon très élégante qui s'offusquait du prix de ma botte de radis. Et voilà. Et pour moi, c'est très difficile, comme si cette personne était experte sur les prix, alors que je gagne pas le SMIC horaire. C'est assez dur à entendre, d'autant que on retrouve des bottes de radis en conventionnel plus chères au supermarché, et ça pose de problème à personne.
Merci pour cette note vocale. Je voudrais justement, puisqu'on est passé dans l'alimentation et peut-être qu'il y a quelque chose de différent et de particulier s'agissant de l'alimentation, je voudrais qu'on accueille Nicolas Chabanne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur de cette marque qu'on connaît qui s'appelle C'est qui le patron ? Et je me demandais effectivement si toute cette conversation dont vous avez suivi une partie ne s'accorde pas à l'alimentation en fait, parce que là pour le coup, la volonté de savoir d'où vient le produit, qui l'a fabriqué et dans quelles conditions, est nettement plus importante que peut-être pour n'importe quel autre.
J'ai tout écouté parce que vraiment c'est passionnant, ça nous a ramené 9 ans en arrière quand nous consommateurs, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'on est des consommateurs, il n'y a pas d'enjeu financier dans la structure. Mm-hmm. Donc on a juste à s'occuper de finalement savoir comment est construit le prix. Et oui, dans l'alimentaire, il y a une donnée, votre extrait l'a bien montré, c'est quand même le fait qu'il y a un producteur derrière, mm-hmm. quelqu'un qui travaille dur et qui bien souvent est un peu la surface, un peu molle dans la négociation, c'est-à-dire que tout le monde défend des centimes et on leur prend à eux parce qu'ils ont du mal à se défendre. Et nous, en tant que consommateurs, on est arrivé face à des briques de lait, on ne savait pas pourquoi c'était plus cher ou moins cher. Mmh. Et là, on a pu, en demandant à tout le monde vraiment le détail de la construction du prix, on s'est rendu compte, bon, le distributeur avait sa marge, la laiterie avait sa marge, et il manquait, figurez-vous, 8 centimes au producteur pour vivre de son métier, 8 centimes par litre. Et en fait, quand on a pu les rajouter, on a vu des vies des producteurs changer totalement. Et pour vous donner une idée, c'est là où on regarde pas assez sans cette information ce que ça devrait nous coûter, un juste prix. 8 centimes, c'est 4 euros par an, parce qu'on boit à peu près 50 litres par an et par habitant. Mmh. Donc vous voyez, cette transparence dont vous avez justement parlé, elle manque cruellement en fait à nos informations de consommateurs.
Et ce que ça veut dire aussi peut-être, Nicolas Chabanne, c'est que pour les produits qui sont ceux autour desquels vous travaillez, quand on connaît en plus effectivement le producteur, quand on sait tout ça, il y a une acceptabilité qui n'est pas la même que quand on achète un pantalon ou un canapé, enfin, disons les choses clairement. Mais absolument. Peut-être parce qu'il y a un visage derrière la botte de radis dont on parlait à l'instant.
Ben, il y a un visage, et nous, il y a même un contact direct, puisqu'on peut tous, en tant que sociétaire, aller voir les producteurs, leur demander les yeux dans les yeux. C'est du marketing ou c'est vrai? Et je finis par vous raconter comment il y a un peu d'espoir pour les producteurs,
allez-y.
Et sans doute pour nous tous. C'est que cette brique de lait, quand elle arrive, qu'elle est un peu plus chère, les spécialistes nous disent « vous ne la vendrez pas ». Seulement, tout le monde avait oublié que quand on est sûr que les centimes vont au producteur, puisqu'on vérifie tout ça, quand on est sûr qu'il gagne sa vie et que ses journées et ses nuits changent, eh bien, c'est devenu la brique de lait la plus vendue de France, hors MDD. C'est qui le patron? La marque solidaire des consommateurs, c'est la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans. Alors, c'est pas pour les podiums, c'est pour vous dire que, je dirais, en perspective de ce magnifique débat, si demain, on avait à coup sûr l'assurance... Hein, sur 22 000 références en magasin, il n'y en a pas beaucoup qui vous garantissent que le producteur gagne sa vie. Dès qu'on a l'info et l'assurance, on en fait évidemment un succès, donc du soutien aux producteurs. Et petit clin d'œil, parce qu'ils sont en grande difficulté, les producteurs, depuis longtemps. Notre façon, finalement, de décortiquer par transparence, avec un poids fort, quand tu es consommateur, le partenaire te respecte, le distributeur aussi, c'est pas le même rapport. On est les patrons de ce système, avec l'argent dans nos poches. Et en fait, c'est un merveilleux espoir, on profite de ce passage chez vous pour le dire, ça va devenir une loi. La loi des consommateurs, c'est de dire à tout le monde, donnez-nous toutes les informations, laissez-nous vérifier, ne nous faites plus de la com et du marketing, et on pourra amener, notamment dans dans les produits agricoles, notre soutien aux connaissances de cause vers les producteurs. Il nous manque cette transparence cruellement.
Merci beaucoup Nicolas Chaban, vous êtes le fondateur de C'est qui le patron. Est-ce que vous diriez l'un et l'autre, Genaël Go, est-ce que vous diriez que ce qui s'applique et on comprend pourquoi à l'alimentation, parce que connaître le producteur, savoir qui il est, même au moins d'où il vient quand on est parisien, qu'on n'est pas forcément, quand on habite une grande ville, mais on sait exactement d'où il vient. Est-ce que ce modèle-là est adaptable à d'autres choses? Est-ce que ça marche aussi pour les marques françaises, par exemple, lorsque les marques françaises sont parfois un peu plus chères? Est-ce que ça marche pour un canapé, un pantalon? Est-ce qu'on se dit que ce modèle, il est vraiment transposable?
Oui, je pense que...
À côté des autres, probablement pas en dépit des autres, hein, parce que ça, pour le coup... Mais à côté, oui, ça marche.
Oui, à côté, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question de la valeur et de comment est-ce qu'on perçoit la valeur. Et quand je vous disais tout à l'heure, dans nos études à l'Obsoco, il y a un Français sur 10, un consommateur sur 10 qui nous dit le prix juste, c'est le moins cher. Mais il y en a 40% qui nous dit c'est celui qui assure le meilleur rapport qualité-prix. Il y en a 22% qui nous dit justement c'est le prix qui assure une rémunération satisfaisante aux salariés et aux producteurs. Mmh. Et la protection également de l'environnement. Là, il y a une dimension. La première, c'est la dimension utilitariste, la seconde c'est la dimension éthique. Et donc là on voit en fait que cette dimension, là encore si on arrive à l'objectiver, si on arrive à montrer que ce sont des vrais producteurs qui sont derrière, on a fait des expériences par exemple à l'Obsoco où on partage un échantillon de Français que l'on interroge, représentatif en deux moitiés. À l'un, on montre des produits sans aucune mention, à l'autre, on montre le même produit avec une mention par exemple fabriqué en France ou une mention justement qui va valoriser les producteurs. On voit qu'il y a une propension à payer qui n'est pas énormément plus chère, mais qui est quand même significativement plus cher, dès lors que on s'aperçoit qu'objectivement il y a ces signes-là qui font partie aujourd'hui des signes de qualité.
Il y a cette remarque Franck Lehuédé de Thomas que je trouve frappé au coin du bon sens, qui dit quand on achète d'occasion, on se pose moins de questions sur le prix. Acheter d'occasion, c'est moins cher et, dit-il aussi, c'est de bonne qualité. Parce que je reviens à ce qu'on disait à l'instant, au fond, si c'est moi qui vous le vends, même si c'est une voiture ou donc quelque chose qui peut être cher, je vous dirais, ayez confiance en moi, j'ai fait tant de kilomètres, elle roule bien, elle marche bien, etc. Du coup, la confiance est autre, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce biais-là qu'on trouve aujourd'hui beaucoup ?
Depuis le début de cette émission, on n'arrête pas de parler de la confiance. C'est vraiment l'élément essentiel pour donner, justifier de la valeur d'un produit et, en effet, pour une partie des consommateurs, se dire qu'ils peuvent consommer différemment, au moins de temps en temps. Au moment où l'inflation est arrivée, il y a eu 60% des Français qui ont dû revoir leur consommation. Et il y en a 40 qui se sont dit « bah non, ma foi, je peux assumer de continuer à consommer de la même manière ». Sur ces 60%, on voit aujourd'hui qu'il y en a 55 qui ne souhaitent qu'une chose, c'est revenir à la situation d'avant, au monde d'avant, et continuer à consommer. Mais il y en a 5% qui ont changé et qui se disent « bah, somme toute, c'est pas mal, je m'y retrouve ». Je donne corps à mes valeurs et du coup, bah, je suis prêt à changer de consommation. On est passé du coup, grâce à ces 2 ans là, d'inflation, de 5 à 10% des gens qui peuvent être acceptés de payer plus cher pour un produit de qualité supérieure.
L'envie de consommer est constante parce qu'on a l'impression de faire la bonne affaire et c'est un véritable sport, nous dit Axel Guenelgo.
Oui, et en même temps, cette envie
parfois,
de consommer,
c'est un sport de
elle marque un peu le pas. C'est-à-dire, nous, on observe aussi trimestriellement, justement, cet appétit de consommation. Et on voit que, les Français ont moins envie de consommer qu'auparavant. Les Français sont plus dans une approche où on les voit davantage faire attention quand on parle d'alimentation au gaspillage et quand on parle de la gestion de leur budget. Alors, faut-il en avoir dans l'excédentaire, mais on n'a jamais eu autant d'épargne qu'on en a en ce moment, versus la consommation. Donc on est dans un moment où, et comme le dit Franck, on s'interroge, et il y a une partie importante des Français qui s'interrogent sur sa consommation, pour eux-mêmes, pour les questions d'environnement pour certains,
sur,
pas tous.
Sur les véritables coûts, les coûts qui sont derrière, le coût environnemental, etc.,
exactement.
Qui n'apparaît évidemment pas dans le prix, certainement pas dans les oreillettes à 1,80€ de notre ami auditeur tout à l'heure. Marc est avec nous, bonsoir Marc.
Oui, bonsoir, téléphoneur. Oui, vous m'entendez ?
Ah ben, je vous entends très bien, allez-y.
Alors, moi, je voulais parler du juste prix par rapport aux abonnements téléphoniques à Internet, puisque je me suis aperçu en voyageant que suivant les revenus médians des populations, les tarifs étaient totalement différents. Ça peut être divisé par 5 suivant les endroits où vous trouvez, quand vous avez des gens qui ont des petits revenus.
Merci beaucoup, Marc. C'est une vraie bonne remarque, celle de Marc, parce que là, pour le coup, pour ce qui est des choses qui sont immatérielles comme ça, là, on se dit, Franck Léhuédé, qu'on est pile dans l'acceptabilité, ce qu'un pays, des consommateurs, une société même, accepte de payer pour des vidéos à la demande, par exemple, ou des choses comme ça.
Alors, le fait que dans la consommation, on ait de plus en plus de services qui soient achetés, notamment de services de loisirs, amène à ce que le prix est encore plus brouillé, puisque en fonction du moment, en fonction du type de consommateur, on ne va pas lui proposer le même prix. Dans les loisirs, c'est la même chose. Mmh. On a vu l'effet Taylor Swift et des concerts où, en fait, les prix ont fortement augmenté. On a eu 30 ou 40% d'augmentation entre 2020 et 2024 sur les prix des concerts, avec notamment une possibilité de toujours acheter des petits plus, en fait, pour pouvoir payer plus cher. Mmh. Ça participe de cette question du brouillage du prix. Puis une autre dimension qu'on n'a pas encore évoquée, c'est tout ce qui est gratuit. Mmh. Est-ce que le gratuit, c'est vraiment... Ça a un coût à produire, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc comment
c'est du faux les gratuit, sociétés vous dites, en fait,
vont réussir, ces sociétés vont réussir à trouver leur équilibre financièrement? Il y a évidemment quelque part derrière une incitation à acheter des services supplémentaires.
Il nous reste peu de temps, mais il y a cette remarque de Sylvain qui dit, est-ce que c'est vrai que quand on réserve un billet d'avion, le prix monte lorsque l'algorithme repère que l'on veut aller dans un endroit précis? Gena Elgo.
Alors ça, je sais pas précisément les artifices du yield management, puisqu'il s'agit de ça. Faudrait demander en fait à l'auditeur l'auditeur de tout à l'heure, je crois, Joachim, qui travaillait pour des sociétés de ça.
Alors yield management, c'est la tarification dynamique. Alors c'est intéressant quand même la traduction qu'on en a fait, parce que yield, ça veut dire rendement.
Oui.
Ça dit quand même beaucoup de choses.
Hein. Bah, disons que les anglophones étaient plus cash nous le sommes, puisqu'effectivement tarification dynamique.
Mais est-ce que ça veut dire qu'à terme, la tarification dynamique, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est pour ça que je paye mon billet de train, par exemple, 60 euros, et que mon voisin l'aura payé 80, en fonction du moment où on aura acheté. Et plus on attend, plus il y a de la demande, et plus ce prix va monter. Et on le voit dans les trains, on le voit dans les hôtels, on le voit dans les avions. Il commence à y avoir des questionnements sur les concerts ou les choses comme ça. Est-ce qu'il faut se dire, et se lamenter, je ne sais pas, qu'à terme, ce sera une pratique qui sera courante pour énormément de produits.
Je pense que ça va se développer.
Oui, je pense que c'est tout ce qui est justement à force, avec force data, puisque tous ces acteurs sont avant d'être des commerçants, sont des acteurs de la donnée et manipulent extrêmement bien la donnée. Donc je pense que, en effet, tout ce qui va pouvoir aider à personnaliser davantage. Après, c'est vrai que les pratiques, c'est amusant, ce lead management, parce que vous disiez, plus on attend, plus c'est cher. Ce qui est intéressant, c'est que.
Je trouve ça totalement.
Mais je trouve ça. On a vu l'inverse, c'est-à-dire à la fin, le last minute, en revanche, est devenu beaucoup moins cher.
Exactement.
Et comme les habitudes, les gens réservent de plus en plus à la dernière minute, tout ça, les habitudes aussi changent les choses. Donc c'est assez intéressant.
Tout est contre-intuitif, en fait. On peut se dire effectivement...
L'humain est imprévisible.
Exactement.
Donc,
Mais ce qu'on peut se dire, c'est que si c'est au dernier moment, on se dit... Enfin, on a encore ce réflexe-là, je vais prendre au dernier moment, comme ça je vais avoir ce qui reste, donc ce sera moins cher. Et puis finalement, on se trompe, parce que comme il reste très peu de place, finalement, le prix a grimpé. Mais la question que je pose, c'est vraiment celle-là. Est-ce qu'à terme, la fixation des prix, ce sera ça, en fait? Ce sera combien on est, à quel moment?
Alors, ce sera ça pour les grands groupes, très clairement. Par contre, pour les indépendants, on a parlé des agriculteurs, mais on peut parler aussi des indépendants dans le commerce du vêtement, par exemple. On ne peut pas mettre en place ce type de choses. Et donc, ça met une sorte de système à deux vitesses, comme ça, qui est pas bon pour les indépendants.
Et il y a certaines marques aussi qui, justement, valorisent le fait d'avoir des prix extrêmement fixes pour, justement, contrecarrer et se positionner différemment.
Allez, réfléchissons à ce que nous achetons, en tout cas, les uns les autres. Je vous remercie tous les deux chaleureusement. Merci à tous pour vos nombreux appels. À